Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. S'expatrier, c'est parfois contre son gré. Ce fut le cas de Charlotte, par exemple, qu'on reçoit aujourd'hui au micro et qui a suivi son mari dans ses tribulations de start-up à Los Angeles. Elle nous raconte son isolement, sa petite dépression et en fait les moyens qu'elle s'est donnés pour essayer de vivre pleinement son expatriation. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Charlotte!
Salut Cindy!
Merci de vouloir prendre un peu de temps pour témoigner sur le podcast. Je vais te demander, comme d'accoutumé maintenant, de te présenter, de nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Alors, je m'appelle Charlotte, j'ai 34 ans. Bon, j'ai l'impression d'être restée bloquée à 28, mais malheureusement non. Donc j'en ai 34.
C'est qu'un nombre.
C'est ça. Je suis française, j'habitais à Paris avant de débarquer à Los Angeles. Je suis maman d'un petit Marcel qui a 4 ans et je suis mariée à Thomas.
Alors, est-ce que, si j'ai bien tout compris de ce que tu m'avais expliqué en off, c'est que vous êtes arrivés tous ensemble, vos valises sous la main, à Los Angeles. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétro française de ta vie, à savoir, par exemple, où est-ce que tu as rencontré ton conjoint et,
J'ai débarqué à Paris il y a 10 ans à peu près. J'ai rencontré mon conjoint au travail. Donc rien d'extraordinaire. Il a changé de travail après la naissance de notre fils et il a créé sa start-up qui à l'origine était française, enfin qui est française, mais il vendait beaucoup aux États-Unis et donc ils avaient fait pas mal de démarches pour voir ce qu'ils pouvaient faire ici. Et puis à force de faire des rendez-vous avec potentiellement des investisseurs ou des choses comme ça, ils ont pu approcher et être approchés par un accélérateur à Santa Monica.
Comment toi tu percevais alors ce potentiel déménagement ?
J'étais pas très très motivée. J'aime bien ma petite vie. J'aimais bien surtout ma petite vie tranquillement dans mon appartement à côté de Paris. J'allais à pied déposer mon fils à la crèche. J'allais à pied au travail. Voilà, c'était une vie assez simple avec ma famille, enfin nos familles, nos amis, etc. Il est quand même très très proche de ma famille. Donc après, dans le fond, vraiment au fond de moi, je savais très bien que c'était une chance inouïe pour mon mari de pouvoir avoir l'opportunité de développer sa start-up aux États-Unis.
Comment vous discutez tous les deux de cette expatriation, sachant que toi, tu n'étais pas nécessairement motivée pour aller aux États-Unis ?
En fait, il me demandait clairement est-ce que tu as envie d'y aller ou pas. Donc à la fois, j'avais envie parce que je voulais découvrir de nouvelles choses. À la fois, j'avais pas envie parce que je voulais pas quitter ma famille et mes amis.
Quand est-ce qu'il est revenu vers toi en disant « Écoute Charlotte, on y va ».
Autour de mars 2018, c'était « Est-ce qu'on part ?» On part, je fais « Ok, oui, on va y aller ». Après, en juillet, il a commencé à me dire « Bon, c'est compliqué, je sais, enfin, on va peut-être pas pouvoir partir ». Et assez étonnamment, je me disais « Mince ». Enfin, je commençais à me préparer, à me dire « On va partir oui. ». Et là, tu me dis, on va peut-être plus partir. C'était assez étrange comme sensation. Et puis, à partir de, septembre, octobre, c'est reparti. Et puis, on a eu notre visa le 7 janvier 2019. Et le 17, on était dans l'avion pour partir à Los Angeles avec nos 6 valises.
Ok, donc la nouvelle tombe pour toi. Oui. Comment tu t'organises en interne pour déjà ton travail ? À quel moment tu te dis, il va peut-être falloir que je vienne informer mon employeur du fait que je vais partir ?
Alors ça a été très difficile. Je bossais dans une association, à la Fédération française de hockey sur gazon. Donc c'est pas très connu.
Tu fais du hockey ? Pas du hockey sur...
J'en ai fait pendant un an et demi à peu près avant qu'on parte.
Comment tu leur annonces alors ? Que tu pars.
Donc ça a été très difficile. J'adorais mon travail, j'adorais mes collègues. On a vraiment, c'était génial, tout simplement. Tout n'était pas rose comme partout, mais on avait une super ambiance, etc. Et il a fallu quand même que j'annonce parce qu'il y a des préavis. Et je leur ai dit, on va partir aux États-Unis. Alors au début, c'était pour un an, parce qu'en fait, même nous, on était complètement dans le flou à savoir si ça allait marcher ou pas. Donc j'avais pris un congé sabbatique.
D'accord. Donc en fait, tu pars à LA en te disant, c'est pour une année et je reviendrai vous voir.
Voilà, c'est ça. Vraiment, vraiment, moi, dans mon esprit, c'est que ça allait aller très vite, etc. Et puis, mon mari aussi m'avait dit, on verra aussi, avant qu'on parte, c'était peut-être mon associé peut gérer les États-Unis et moi, gérer l'Europe. Et puis, au final, ça marche pas. Ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin de travailler ensemble et donc tout le monde aux États-Unis.
Oui, et puis, il y a le décalage horaire, les gens oublient rapidement.
C'est ça, 9 heures. Avec la France.
Oui, c'est clair. Ouais. Les gens oublient. Et donc, du coup, les réunions, en plus, les Français adorent faire des réunions. Donc, j'imagine. En fait, vous, l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous partez, c'est de se dire on part pour un an.
Pour moi. Je pense que mon mari savait très bien que ça allait durer plus longtemps, mais j'arrivais pas, moi, à me dire qu'on partirait pour plus.
Comment vous l'annoncez alors du coup à Marcel que vous partez au soleil ?
Ah oui, alors Marcel, on a mis beaucoup de temps à lui dire. Tu vois, je te disais, on a eu le visa le 7 janvier. Je pense qu'on a commencé à lui en parler en décembre. En plus, le pauvre, il m'a vu beaucoup pleurer. Donc, ça devait être assez déstabilisant pour lui. Mais on a commencé à lui en parler. Et puis, de toute façon, il a eu un petit pot de départ, dirons-nous, à la crèche, etc. Donc, on lui a dit... C'était trop mignon. Une des personnes qui s'occupait de lui lui a fait un album photo. Enfin, c'était génial et je l'ai regardé encore il n'y a pas très longtemps et c'est trop chou.
Il avait quel âge quand vous partez, alors, du coup
2 ans. En fait, 2 ans, on ne sait pas trop si... 2 ans, on ne sait pas trop si faut lui en dire beaucoup, quand faut lui dire. C'était assez... Je ne sais pas si on lui en avait parlé 6 mois avant. Je ne suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose.
Donc... En amont, t'essayes pas non plus de regarder des groupes sur Facebook de maman ou de choses comme ça ?
Non, c'est mon mari qui a fait tout ça. C'est-à-dire que...
Donc, il a préparé toute la logistique avant ?
Ouais, il m'a beaucoup aidée. Donc, alors, on est arrivé dans un Airbnb sur Venice Boulevard. Et donc, il faut se rendre compte que Venice Boulevard fait... 6 voies. Et donc, voilà, nous sommes retrouvés. Alors, on avait regardé un peu, on s'est dit, on va faire un Airbnb, puis on cherchera après un appartement. Pour voir un peu sur place où est-ce qu'on aimerait habiter, en fait. Donc, on avait pris ce Airbnb glauque au possible qui ne m'a absolument pas aidée à bien aller. Donc, on l'avait loué pour 2 mois. Et au bout d'un mois, mon mari s'est dit, là, c'est fini, on trouve un appartement où habiter.
D'accord. Et où est-ce que vous aviez mis tous vos meubles en attendant, tous vos effets personnels ?
Alors, nos effets personnels, déjà, on a l'appartement qu'on avait, c'est le nôtre. Enfin, il appartient plus à la banque qu'à nous pour le moment, mais en tout cas, il est en voie d'être pour nous. Et tout le reste de nos effets personnels était à l'origine dans la cave de ma belle-mère, puis dans la cave de ma belle-sœur. Et nous sommes, voilà, partis avec 6 valises, dont je pense 2 valises de jouets de mon fils, parce que je voulais essayer de recréer un cocon à peu près comme avant.
Mais attends, j'ai complètement oublié de te poser une question quand même qui me paraît essentielle.
Oui.
Est-ce que tu étais... Comment tu appréhendais la langue ?
Ah.
Je veux dire, quel était ton niveau d'anglais ?
Mon niveau d'anglais, pas très élevé, même si dans mon travail, je m'occupais un peu des relations internationales. Donc, voilà, je parlais un petit peu en anglais, mais c'était vraiment... Et puis, Google Trad était vraiment mon meilleur ami. Donc, voilà, je faisais...
Il l'est pour tout le monde.
Ouais, je crois. Et du coup, voilà, j'étais pas très, très douée, pas très douée en anglais. Et ça a été aussi, du coup, un assez gros choc pour moi. Et puis, autant pour mon fils, en fait, parce que même à 2 ans, il était là et il regardait les gens vraiment avec un air genre je comprends pas
qu'est-ce que tu racontes,
qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi, enfin je comprends pas pourquoi il parle pas comme moi. Et donc là j'en rigole, mais bon à l'époque c'est moi qui parlais beaucoup de moi, c'est moi qui disais tout le temps que j'allais pas bien, etc. Mais je pense que pour lui aussi ça a été très dur au départ.
Oui, et puis il doit sentir les émotions de sa maman, donc ça a pas t'as pas dû l'aider. Mais alors, la crèche ou la nanny, vous étiez organisée en amont ? C'est-à-dire que Thomas s'était occupé de lui trouver une place en crèche à Los Angeles quand vous êtes arrivée ?
Oui, alors en fait, donc il avait vraiment tout repéré. Donc là où on allait habiter, et justement, pas loin d'une école. Moi j'ai eu de la chance. C'est un mari formidable.
Franchement, j'aimerais bien avoir quelqu'un d'aussi organisé à la maison.
Ouais. Non, mais il avait donc il avait regardé pour les clubs de hockey, les clubs de golf, l'école pour notre fils. Donc c'était le Decker à l'époque.
Oui.
En fait, il a regardé sur internet et il a trouvé un Decker pour français anglais.
Parfait. Donc on parlait de barrières linguistiques. Là, pour le coup, il se retrouvait un peu dans un
cocon.
Si Marcel est directement mis en crèche, que Thomas travaille comme un cochon, parce que j'imagine que c'est une start-up, donc je sais que tu comptes pas tes heures quand tu démarres une start-up. Comment toi, tu vis ton isolement, mine de rien ?
Le truc, c'est que donc, Thomas était bien renseigné sur le Decker pour Marcel, sauf qu'il n'avait pas des places tout de suite.
D'accord.
Donc, en fait, il a commencé début mars, si je dis pas de bêtises, début mars 2019. Donc, pendant 2 mois... Je l'ai eu H24, 7 sur 7 avec moi. Et mon mari, nous avons pris l'avion et nous avons atterri à Los Angeles le 17 janvier. C'était un jeudi. Le vendredi, il partait travailler.
Donc, tu t'es tapé Marcel qui a 2 ans et qui te fait des tantrums parce que j'imagine que c'est en plein terrible tout. Airbnb un peu glauque sur Venice Boulevard. Et puis, bah, tous les Américains qui parlent avec un accent étrange anglais.
Oui, et mon mari qui part travailler le lendemain. de notre arrivée. Ça m'a pas aidé, c'est ça, je peux dire que ça m'a pas beaucoup aidé.
J'imagine bien. Comment tu vis alors du coup ces 2 premiers mois toute seule à la maison avec Marcel ?
Je les vis pas très très bien, pas très très bien du tout. J'ai en février, l'année 2019, ça a été un peu genre qui va venir nous voir en parlant de nos parents, donc ma belle-mère, mon beau-père et mes parents. Et du coup, c'était un peu, voilà. Et ma belle-mère l'avait dit, moi, je viendrai en février vous voir, etc. Et après, elle me dit, ah, c'est peut-être un peu tôt. Je fais, non, tu peux venir.
Viens samedi, en fait. Hein. Je suis arrivée jeudi, mais viens samedi.
C'est ça. Viens, s'il te plaît. Donc 2 mois, 2 mois vraiment, je pense, les pires que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Je m'énervais beaucoup, j'arrivais pas à gérer mes émotions à moi, d'être loin de ma famille. J'ai fait du psoriasis, une horreur. J'ai eu des gros problèmes, enfin des grosses douleurs dans le dos tellement j'étais contracturée. Donc du coup, ça a été vraiment, voilà, mon corps l'a ressorti, mais vraiment violemment. Et puis j'avais pour parler santé très très rapidement, paniqué d'aller voir le médecin parce que j'avais peur que ça nous coûte les yeux de la tête. Mais il y a un moment, il a fallu que j'y aille. Et puis ma belle-mère est arrivée, j'allais pas mieux. Mais bon, ça m'a quand même un peu soulagée. Et puis on a su qu'on allait pouvoir le mettre à l'école, au Decker en mars. Donc
ça a dû te soulager, rien que ça, un sacré poids.
Mais ma belle-mère, quand elle m'a vue, elle m'a dit, mais Charlotte, sache une chose, Thomas, il t'a toujours dit, si ça ne va vraiment pas, vous pouvez rentrer. Et là, je l'ai regardé, je fais, mais je peux pas lui faire ça. Je peux pas lui dire qu'on rentre. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être la seule chance de sa vie. Enfin, ça se représentera peut-être pas 2 fois. Je peux pas faire ça. Donc, il faut que j'aille mieux. Ma belle-mère a commencé à me dire, peut-être aller voir quelqu'un. Ma mère de l'autre côté me dit, qui est homéopathe, me disait aussi, peut-être aller voir. Donc, j'ai un peu pris mon courage à deux mains. Puis, je suis allée voir une psychologue qui parlait français.
D'accord.
Parce que c'était impossible pour moi de parler de ce que je ressentais en anglais. C'est pas possible.
Oui, non.
Voilà, c'était une franco-américaine, plus américaine que française, mais qui comprenait ce que je disais et qui me parlait en français. Et voilà, j'ai pas eu besoin d'avoir beaucoup, mais 2-3 fois, et ça m'a aidé aussi.
T'as pas essayé directement de potentiellement te mettre sur des groupes Facebook pour essayer de trouver la communauté française et te rapprocher d'autres mamans potentiellement ?
Si, si. Tout à fait. Alors ça, mon mari l'avait fait aussi avant qu'on parte. Il m'avait dit, tiens, regarde, il y a un groupe des Français à Los Angeles. Et donc, quelques semaines après, mais même pas longtemps après qu'on soit arrivés, franchement, peut-être une semaine ou deux, j'ai mis un post sur ce groupe. Et puis, j'ai pas mal de personnes qui sont venues, qui ont écrit. On est une, c'est une de mes super copines ici. Mais oui, les groupes de français m'ont aidée. Et puis, un truc de fou, j'avais fait un compte Instagram 100% ici. Et puis, j'ai une jeune fille qui m'a écrit en me disant, ah, je suis là en vacances et si tu veux, on se rencontre. Et je t'ai trouvée via des hashtags. Je me suis dit, mais attends, est-ce que tu veux bien venir boire un verre avec moi? Et ça, c'était 2 semaines après qu'on soit arrivés. Puis là, je dis à mon mari, il me dit, tu vas y aller. Je fais, mais je la connais pas. J'ai Marcel avec moi. Et puis, je laisse couler. Puis elle me réécrit 2 jours après. Et puis finalement, je lui dis, écoute, j'ai un enfant avec moi. Elle me dit, j'adore les enfants. Allez, viens, on va à la plage et tout. Donc, on est allé sur la plage. Et ben, ça fait 1 an et demi. Super, ça fait 1 an et demi. Alors, elle est rentrée en France parce qu'elle était là que pour des vacances. Mais elle est revenue la fin de l'année, on s'est revus et on s'appelle régulièrement. Donc, c'est la première personne qui m'a en plus contactée sans que je demande rien. Ouais.
Ouais. Mais c'est étonnant parce que, et pour l'avoir fait aussi, parce que je l'ai senti cet isolement quand je suis arrivée et que j'étais loin de tous mes proches, tu essayes de rencontrer des gens que tu rencontres à travers les réseaux sociaux. Et en fait, j'aime bien le comparer avec un date. C'est-à-dire que tu vas faire un premier rendez-vous et puis un deuxième et tu vas voir si ça va matcher, parce que c'est pas parce que vous êtes loin à l'étranger et toutes les deux françaises que ça va nécessairement fonctionner.
Ah, c'est sûr.
Et j'ai trouvé ça toujours très marrant. À chaque fois, j'ai eu des friend dates à essayer de rencontrer des gens et à me dire, mais ça va pas fonctionner. Je veux dire, on est sur deux planètes complètement différentes. Oui, je pense que c'est quand même important de le noter. C'est bien de se donner des coups de pied aux fesses, mais c'est pas parce que tu rencontres des gens que ça va nécessairement... Enfin, pour moi, vraiment, j'ai l'impression que trouver un ami, c'est trouver un âme sœur, vraiment. C'est-à-dire que c'est très, très similaire, je trouve.
Oui, puis je trouve qu'en plus ici, quand tu es expatriée, pour ma part, j'arrive pas encore à lier d'amitié avec des Américains, parce que je me bloque toute seule avec la langue. Mais en tout cas, je trouve que moi, j'ai vraiment eu ce besoin de me rapprocher d'une communauté française. Pour parler de mes peurs, pour poser des tas de questions, parce que je sais pas dans quel magasin faut aller pour acheter un truc. Enfin voilà, des tas de choses un peu qui paraissent un peu anodines quand on est dans sa vie bien installée, mais que quand on va dans un autre pays, ça paraît insurmontable. J'ai vraiment le sentiment que quand on rencontre son âme sœur amicale, ou ses âmes sœurs amicales, parce que là du coup on en a plusieurs.
Oui, heureusement.
C'est vraiment très fort. Ouais. Et c'est vraiment très, très fort. Enfin, c'est vraiment, c'est des gens sur qui tu peux vraiment compter. Et le coup des dates que tu dis, ben voilà, on avait déjà fait une rencontre, on était quatre familles. Ben, moi, je sais que je suis restée proche de deux d'entre elles, mais pas de la troisième. Mais après, c'est absolument pas, voilà, c'est juste un match ou ça matche pas, c'est comme ça.
Mais surtout quand t'as des enfants, tu rajoutes le côté parental et éducation. Ou par exemple, tu as des amis aujourd'hui, même en France, tu te rends compte que vous n'avez absolument pas la même vision de la parentalité. Et rien que ça t'éloigne, mine de rien, de la personne à te dire « Attends, non, moi, je ne vais pas faire comme ça. » Donc, imagine si en plus tu es à l'expatriation, c'est d'autant plus compliqué.
Oui, c'est clair.
Alors, donc, vous mettez Marcel à la crèche, enfin. Mmh. Et comment ça se passe alors à la suite de ça? Est-ce que ça t'enlève un poids et petit à petit ça commence à aller beaucoup mieux ou c'est toujours un tout petit peu grisé?
C'est toujours un peu grisé. On arrive à le mettre à la crèche alors 2 jours par semaine au départ. Okay. Et puis la directrice était vraiment super. Elle faisait tout pour. Elle voyait bien que ça n'allait pas. C'est une française. Elle voyait bien que ça n'allait pas, etc. Donc elle faisait tout pour essayer de m'ajouter un petit jour par-ci, un petit jour par-là, quand il y avait des enfants qui venaient pas ou des choses comme ça. Donc on était en 2 jours réguliers. Puis après on a fini par passer en 3 jours. Mais donc du coup c'était pas du full time non plus. Et mais bon c'était déjà bien.
Comment tu t'occupais alors pendant ces 2-3 jours que tu pouvais avoir de libre?
En fait, mon mari m'avait proposé de l'aider un peu aussi dans sa boîte. Alors, c'était de la maison, mais je l'aidais pour faire le service client. C'était bien. Après, c'était en anglais, donc je passais mon temps. Il demandait si c'est ce que j'avais écrit, c'était bien. Au bout d'un moment, il me fait, vas-y, tu peux y aller. C'est très bien ce que t'écris. Te pose pas de questions. Jusqu'au jour où j'ai un gars qui m'a répondu en me disant, c'est pas possible de faire des fautes d'orthographe comme ça aujourd'hui. J'avais juste, là, j'ai la moutarde m'est montée au nez. J'avais juste envie de l'envoyer bouler, ce que je ne pouvais absolument pas faire, évidemment. mais du coup, voilà.
Toujours sur des gens pas très bienveillants. Pour avoir des expériences au téléphone avec des gens qui ne faisaient même pas l'effort d'essayer de comprendre malgré un accent. Tu vas toujours tomber sur des gens qui ne sont pas très sympathiques.
Oui, non, c'est certain. Bon, et puis, c'était un parmi tant d'autres. Mais du coup, voilà, donc je travaillais un peu pour mon mari. Je m'étais mise à faire de la broderie sur des t-shirts parce que j'aimais bien ça. J'essayais de m'occuper un peu et puis je marchais, je me baladais, j'essayais de prendre la voiture, ce qui a été très difficile au départ encore une fois. J'ai l'impression que tout est difficile, mais oui, pour moi, au début, tout a été assez difficile et maintenant tout va très bien.
Mais c'est une adaptation, c'est toujours comme ça.
Ouais, et puis ces autoroutes, encore une fois, ou ces grandes avenues à X voies et beaucoup de voitures, c'était... Pourtant, j'avais jamais peur de conduire à Paris. Il n'y avait aucun problème périph' dans Paris. Je n'avais pas de problème. Mais là, je ne sais pas, c'était pas pareil.
Parce que c'est plus petit. Mais c'est marrant parce qu'en France, on est toujours habitué à conduire à droite. Alors qu'à LA, il faut conduire au milieu.
Oui.
rates ton exit, tu l'as dans le baba.
C'est ça.
Donc, il faut rouler au milieu.
Au milieu, et ça double par la droite, par la gauche, peu importe, il n'y a pas de règle.
Ah, oui.
C'est...
faut y aller. Je veux dire, l'exit, elle est là. En plus, tu comprends rien au mile. Quel est pour toi l'élément où tu te dis, bon, il va falloir que je sorte un peu de, de ce monde nuageux. Il fait beau dehors, il fait chaud. On est à LA. Quel a été l'élément conditionnel pour toi de changer potentiellement d'état d'esprit?
Alors, c'est une très, très bonne question. Je sais pas quel élément vraiment déclencheur, mais quand je suis partie... Donc, j'ai eu ma belle-mère qui est venue en février. Mes parents sont venus en mai. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mon père, qui aime bien être chez lui, etc., a fait le déplacement avec ma mère. Donc, j'étais vraiment super heureuse. On s'est fait un petit road trip... Donc, tous les cinq sur la côte ouest un peu. Donc, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'allais déjà un peu mieux. Enfin, le fait que, oui, Marcel aille à la crèche, que j'essaie de faire un peu d'autres choses, que j'ai rencontré, du coup, des Françaises ou des Français parents. Du coup, j'ai passé du temps avec ces personnes-là. J'ai fait des choses, etc. Donc, ça allait mieux. Et puis, en juin, je suis re-rentrée pour le travail. Du coup, là, j'ai pu voir mon frère, donc ça m'a fait du bien. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai fait là, c'est bon, là, maintenant, il faut que je me bouge, il faut que je me bouge pour l'anglais, pour la langue. Et du coup,
Qu'est-ce que t'as fait ?
Eh ben, j'ai eu la chance, pas loin de chez moi, il y avait le Santa Monica College qui faisait le programme ESL, English Second Language. Donc, du coup, c'est pour tous les... Si j'ai très bien compris, c'est pour tous les expatriés qui veulent s'améliorer en anglais. Donc, du coup, je suis rentrée en juin. Je suis allée voir comment ça se passait. J'ai passé un test de 1 heure, je crois, sur un ordinateur pour savoir quel niveau j'avais. Et j'étais niveau advanced. Alors ça a été le... j'ai pas compris. Non, je me suis dit, il y a une erreur quelque part. C'est pas possible.
Mais ça montre bien qu'il faut se faire confiance, hein, tu vois. C'est toujours une barrière à se dire, bon, bah, j'ose pas trop, mais alors que t'as les capacités à le faire, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis, en fait, chaque petite chose, c'est une victoire. C'est assez incroyable. Donc, du coup, j'ai eu ce niveau-là. Bon, très bien, je suis allée m'inscrire en cours. Et puis, fin août, on est rentré en France... Alors avec Marcel 4 semaines et mon mari était avec nous pendant 2 semaines et puis fin août j'ai démarré les cours. Donc j'y allais.
Tu y allais combien de temps
Moi j'avais choisi tous les matins sauf le jeudi matin. Je m'étais dit il faut que j'y aille façon intense. Donc c'était ça jusqu'en décembre. Premier jour, j'avais l'impression d'être une écolière qui rentrait à l'école. C'était j'étais pressée, j'avais mes petits stylos, mes petites feuilles, je savais pas comment ça allait se passer. Et voilà, tout ça à 33 ans quand même, faut le noter, mais c'est voilà, je suis comme ça.
Il y a pas d'âge. Ouais. Mais alors, tu penses que tu as fait des nettes améliorations avec cette école ?
Oui, j'ai progressé, c'est certain. En plus c'est assez incroyable parce que quand tu dois, il y a beaucoup d'exercices où tu dois travailler avec un binôme. Donc, il faut que tu arrives aussi à comprendre l'autre personne. Et franchement, en fonction des nationalités, il y a des accents. Alors, je ne veux pas dire que mon accent est bien pourri aussi. Mais je veux dire, il y a des fois, c'est difficile de comprendre, de se comprendre. Mais c'était vraiment super bien pour Louis, pour développer Louis, etc. Et puis, à la maison, on regarde, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est qu'on regarde les séries en anglais, sous-titrées anglais. Et pas plus tard qu'hier, j'ai dit à mon mari, mais c'est incroyable, j'arrive... Alors, pas tout, on est bien d'accord, mais il y a vraiment des phrases, j'arrive à les comprendre sans même regarder la télé, juste en écoutant. Donc,
c'est parfait. Tout ça combiné... En un an, c'est quand même... C'est un sacré progrès.
Je suis pas non plus capable de tenir une énorme discussion, mais en tout cas, ça rentre.
Oui, mais après, c'est parce que là, so far, j'ai enregistré que des conversations où les couples sont déjà multiculturels, donc il y a les deux langues qui sont établies dans le couple. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans un milieu 100% français pour t'installer à l'étranger, c'est dur de quitter le petit village français et d'essayer d'améliorer la langue parce que les Américains, ils t'attendent pas, quoi. Ils ont déjà leur cercle d'amis, ils sont déjà occupés. C'est pas facile de rentrer en contact directement avec eux, quoi, à moins d'être dans une boîte américaine ou d'être dans une coloc américaine ou des choses comme ça, quoi.
Oui, c'est vrai que, alors je fais sans doute pas ce qu'il faut, et puis pour le moment, j'ai pas forcément la force et l'envie, mais...
T'as trouvé ton âme sœur...
Américaine.
Friend soulmate.
Non.
Mais même à travers la crèche, si c'est un programme français-anglais, tu penses qu'il y aurait peut-être des mamans américaines qui veulent que leurs enfants parlent français, non?
Quand il était à la crèche, et même encore aujourd'hui à la preschool, il est le seul à être franco-français, quoi. Vraiment, les deux parents français. Dans les autres familles, il y avait, en tout cas que nous, quand on y était, c'était beaucoup américain ou anglais. Et il y avait aussi une biélorusse. Donc j'arrivais, voilà, la maman biélorusse, on a réussi à... Bon, après, elle est partie, donc malheureusement, c'est comme ça. Mais on se parlait un peu et tout ça, c'était vraiment chouette. Mais des gens, vraiment des Américains,
j'y arrive pas,
c'est pas que je veux pas le faire, c'est que c'est difficile d'arriver à lier quelque chose. Comme tu dis très bien, j'ai l'impression que voilà, ils ont déjà leur sac, mais peut-être qu'un Américain qui viendrait en France, je sais pas si les Français l'intégreraient non plus facilement. Je pense pas que c'est que les Américains, que ce soit que les Américains.
Mais Marseille, il a pas des petits copains ou des petites copines américaines et tu te dis bon bah je vais peut-être faire des playdates avec la maman étant donné que nos enfants s'entendent bien.
Là en ce moment, il avait une super copine, enfin il a une super copine qui est canadienne. Donc, elle parle français. Il a un autre copain, sa maman est des Seychelles, donc il parle un petit peu le français et l'anglais. C'est trop chou. Mais c'est vrai qu'à part cette petite Canadienne, on ne voit pas beaucoup les familles de l'école à l'étranger. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est dans une preschool qui est familiale. Ils ne sont que 4 à l'école.
D'accord. Ah, ok. Je comprends
donc,
mieux.
C'est pour ça. Oui, pardon, j'ai déjà... C'est peut-être un des éléments les plus importants, c'est qu'ils ne sont vraiment pas nombreux. Et que là, par contre, pour l'année prochaine, à partir de la rentrée de septembre, on est en train de regarder
pour l'école.
Pour le mettre dans une école... Enfin, ça sera toujours une preschool parce qu'il aura... Enfin, c'est très compliqué. Il aura 5 ans, mais en mars...
Ah, donc ils le mettent...
Il ne peut pas être dans l'école. Et il ne peut pas être en ticket, comme ils disent. Parce que nous, on visait une école qui s'appelle Richland, qui a un programme français-anglais. Parce que ça, c'est vraiment une chose à laquelle je tiens. J'aimerais, je veux qu'il apprenne à lire en français aussi. Alors, je suis pas mal de choses sur... un peu de choses sur le bilinguisme et qui dit que l'enfant apprendra à lire une seule fois. Que ce soit s'il apprend en français, il saura lire en anglais, etc. Mais bon, moi, j'ai besoin qu'il ait quand même un environnement un peu français, si possible. Parce que là, j'adore, il est dans un cocon de 4 enfants. C'est génial. Les encadrants, professeurs, c'est top. C'est vraiment génial pour l'aider à grandir et à apprendre l'anglais aussi, un minimum. Puis d'ailleurs, ils nous ont dit qu'il était complètement décomplexé, qu'il essayait de parler en anglais, que la dernière fois, ils ont appris les formes, le rond, le carré, le triangle, et que la prof lui a dit « Comment tu dis carré en anglais ?» Et là, il dit « Carré ». Alors là, mon chéri, ça ne marche pas. T'as bien tenté, mais ça ne marche pas.
Trop chou.
Mais voilà, il était décomplexé.
Mais c'est très bien, ça allait être une de mes questions. Alors, tu penses qu'il a réussi, lui, pour le coup, à bien... appréhender la culture américaine et ce changement de pays?
Alors franchement, je pense que oui. Alors à mon avis, au début, c'était comme moi, c'était très difficile, mais j'étais un peu centrée que sur moi, donc c'était un peu compliqué, etc. Mais franchement, là, il est trop mignon. Quand la dernière fois, je suis allée chercher à l'école, il parle en anglais à un petit garçon qui est vraiment 100% américain. Il lui dit en anglais, mais regarde, il y a ta maman qui est là et il lui parle en anglais. Je trouve que c'est génial. Je fonds quand je l'entends parler en anglais, c'est trop mignon. Mon mari va essayer de lui parler un tout petit peu en anglais pour essayer de lui apprendre des choses. Mais c'est pas naturel.
Il va le corriger.
Ouais. C'est ça. Bon, mon mari parle vraiment très, très bien en anglais. Mais voilà, essayer de... Oui. Que notre fils soit vraiment à l'aise si on arrive à le mettre dans une école pour le coup américaine.
Oui, parce que là, donc, du coup, au pre-K, il parle quelle langue? Il parle que français?
Alors, ils parlent français. Ils apprennent, par exemple, les lettres de l'alphabet. Il y a un jour, ils vont les faire en français et 2 jours après, ils vont les faire en anglais.
D'accord.
Donc, il y a des jours alternés. Mais c'est vrai que notre envie de le changer d'école, c'est... Il y a 3 raisons. Je voudrais qu'il parle vraiment bien anglais. On ne sait pas pour combien d'années on est là. Donc, je veux vraiment qu'avant qu'on parte, il parle parfaitement l'anglais. Deuxièmement, ils sont que 4. Si on arrive à le mettre dans cette école qui s'appelle Richland, et ben, ils seront 350. Donc, il faut qu'il y ait un juste milieu. Parce que là, je crois que sinon, il va quand même être sacrément perdu. Et donc voilà, essayer de le mettre dans une école où il y a un peu plus d'enfants. pour qu'ils voient un peu que ça se passe pas que en cours presque particulier. Et puis financièrement, en fait, parce que ça, c'est aussi le gros, gros point.
Oui, bah alors parce que elle est gratuite, la prix dans laquelle tu veux la mettre ? Si elle est publique ?
Non. Non, elle n'est pas. Non, c'est Montessori. C'est Montessori, d'accord. Donc elle est encore payante. Mais aujourd'hui, ça fait presque 1000 dollars de différence entre les deux. Donc, c'est pas négligeable. Et puis en plus, là, aujourd'hui, on est sous visa E2. Mais il y a des chances que dans quelques mois, on change de visa avec lequel j'aurai plus le droit de travailler. Donc, c'est pas moi qui fais vivre la famille, on est bien d'accord, mais j'en apporte quand même un peu et cette différence sera...
Oui, non, c'est clair. Mais comment toi, tu appréhendes le fait que tu vas plus pouvoir être capable de travailler ? Enfin, pas être capable, mais de plus avoir le droit de...
Bah, je sais pas trop, je vais... Je pense que je vais continuer à faire mes petites broderies et puis réfléchir à ce qui est possible de faire. Après, le but de ce nouveau visa, c'est d'après demander la carte verte. Et quand tu demandes la carte verte, tu as de nouveau le droit de travailler. Donc, ça sera peut-être pas pour très longtemps. Mais c'est vrai que pendant un moment, pendant un certain temps quand même, je pourrais pas. J'ai pas encore tellement réfléchi à ce que je pourrais faire. Mais je vais m'occuper.
Mais alors, j'imagine que si tu dois perdre malheureusement quelques années professionnelles, est-ce que ce serait pas le parfait moment pour essayer de mettre un Marcel number 2 en route ?
Bah écoute, bonne transition.
Parce que quitte à pas travailler, je veux dire...
C'est ça, autant en profiter, nous sommes bien d'accord. bah oui, c'est ce qu'on veut vraiment très 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 fort. De toute façon, on voulait deux enfants. Enfin, à vrai dire, il y a quatre ans, je voulais trois enfants. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à deux si j'arrive à avoir le deuxième.
Après le premier, on revoit un peu les plans.
C'est ça. Et puis pour, enfin voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut absolument pas voyager et faire des choses avec trois enfants, mais deux, je pense que c'est le bon plan.
C'est assez challenging, oui.
C'est ça. Donc du coup, voilà, oui, essayer d'avoir un deuxième enfant, mais j'avoue qu'on a eu quelques petits stops qui se sont présentés. Enfin, surtout un, c'est la partie santé, enfin la partie assurance santé.
Vous ne l'avez pas à travers la start-up de ton mari ?
Alors, à travers la start-up de mon mari, on a une assurance santé internationale. C'est April International, enfin, pas faire de publicité,
donc
mais...
Donc, rattachée à la France.
Voilà, qui est géniale. Okay. Alors, elle coûte cher, mais elle est vraiment géniale. Oui. Je veux dire, quand je parlais tout à l'heure que j'étais allée voir les médecins, enfin, je suis allée voir un dermatologue, je suis allée voir un généraliste français, etc., où la première consultation... Attention, les oreilles, m'a coûté 350 dollars. Donc,
elle n'est pas si géniale que ça.
Alors, non. Le rendez-vous a coûté 350 dollars. Je n'ai rien payé.
D'accord.
Notre assurance santé est incroyable. C'est-à-dire qu'elle prend tout en charge à 100%.
OK.
On ne paye rien. Mais c'est juste pour dire que, voilà, rendez-vous, c'est généraliste. Ça coûte très cher. Alors après, voilà, j'avais des trucs à faire en plus. Mais voilà, ça m'a coûté les yeux de la tête. Je suis allée voir le dermato. Je préfère même pas savoir... combien ça a dû me coûter. Je fais l'autruche, un peu comme toujours. Mais voilà, donc aujourd'hui, notre assurance santé est vraiment très, très bien, sauf que on n'avait pas la maternité dedans et que si on voulait rajouter la maternité, donc on payait en plus, ça, bon, c'est comme ça, mais surtout, on avait 10 mois de carence. Donc, 10 mois pendant lesquels, si je tombais enceinte, rien n'était pris en charge.
Il faut le faire maintenant, alors. Il faut le mettre en place maintenant.
Non, parce qu'en fait, on n'avait pas cette maternité. Et si on ajoutait la maternité, parce qu'on est obligé de l'ajouter, si tu n'as pas cette assurance maternité, tu peux avoir un enfant, mais ça va te coûter 15 000 dollars.
Donc, vous l'avez déjà pris au cas où ?
Non, parce que je ne voulais pas attendre 10 mois. Donc, du coup, je voulais absolument qu'on essaie de trouver une autre solution avec...
Oui, une assurance en local.
Voilà.
Oui.
Donc, on a fait appel à une...
Un broker.
Voilà, exactement. Merci. Une broker en assurance qui nous a fait des propositions. Et donc là, on en a trouvé une. Et elle est pas mal. Elle me permet d'accoucher dans un des hôpitaux que j'espérais. Alors, pas au Cedar Sinai, mais au moins à St. John's, donc, qui est apparemment un très bon hôpital et une très bonne maternité à Los Angeles. Donc, c'était très important. Après cette assurance américaine, j'ai obligé de renoncer à l'assurance internationale, du coup. Et cette américaine-là est moins bonne. Si je vais chez le médecin, je dois payer 30 dollars quand même. Si je vais faire un scanner, etc. Mais bon, c'est pas grave.
Mais tu peux accoucher tranquille.
Mais je peux accoucher tranquille. C'était ça le but.
Oui.
Donc voilà, mais bon, entre-temps, je suis témoin de mariage au mois de mai de l'année prochaine. Donc soit il faut faire très très vite, soit il va falloir attendre encore un petit peu.
Oh, bon, écoute, vous irez à votre rythme, mais c'est bien que vous ayez déjà géré l'assurance santé et toute cette logistique qu'il y a derrière par rapport à ça.
Ah, ça, c'est clair qu'il y a des tas de choses quand même, il faut quand même être informé avant de...
Parfaite transition. Alors, est-ce que tu repenses à certains points avant de t'expatrier auxquels tu aurais aimé avoir pensé ou tu aurais aimé qu'on t'ait dit ?
Bah... Sur le fait de se préparer, je suis pas la meilleure pour ça parce que je me suis pas bien préparée pour le déménagement, mais je sais même pas comment est-ce que j'aurais pu vraiment mieux me préparer, mais peut-être quand on a un enfant, lui en parler un peu plus, lui expliquer en effet que quand on va dans un autre pays, ben on parle pas pareil, parce que ça, je pense que ça a été un choc pour lui de se dire qu'il comprenait pas ce que les gens lui disaient, alors qu'avant il comprenait très très bien. Ou qui nous comprenait très très bien. Donc voilà, peut-être essayer de lui expliquer un peu plus. S'il regarde un dessin animé, bah pourquoi pas le mettre plutôt en anglais. Enfin voilà, essayer de, enfin ou en tout cas dans la langue du pays où on va. Le gros point, ça serait de se renseigner sur tous les sujets un peu basiques. Donc cette histoire de santé, la santé, c'est quand même, c'est gros point noir quand même des États-Unis. Hein. Ça, ça, on se rend encore plus compte comme ça qu'on est vraiment très chanceux en France. Et que c'est pas parce qu'il y a un dépassement de 30 euros à payer une fois tous les 5 ans à la pharmacie que...
Il y a l'assurance santé et l'éducation, je trouve, qui est aussi... on ne se rend pas compte en France que tout cet aspect autour de l'école, déjà l'école en France qui est gratuite quand même jusqu'à l'université, et tu ne te dis pas, je vais m'arrêter à 2 enfants en France parce que si j'en fais un 3e, je serai incapable de lui payer l'université plus tard, par exemple.
Oui, non, mais ça,
je trouve qu'ici, c'est quand même un gros point de se mettre des barrières parce qu'on sait qu'on ne sera pas capable d'assumer un enfant, au moins vraiment pour son éducation. Après, je ne dis pas qu'en France, les gens avec un SMIC, c'est compliqué de joindre les deux bouts, mais ici, tu réfléchis vraiment à 2 fois parce que tu sais que l'école, ça va te coûter en moyenne 55 000 par an si tu ne rentres pas dans une école publique et tu dois partir dans le privé, quoi.
Ah oui, non, mais ça, c'est... Non, mais c'est clair que... En fait, ici, à la fois par rapport à nous, pour le deuxième enfant, c'est vrai qu'à la fois par rapport à tous les frais de santé jusqu'à l'accouchement, je trouve que c'est quand même horrible déjà de te dire que tu ne sais pas si tu vas faire un deuxième enfant parce que tu as peur de ce que ça va te coûter. J'ai une amie qui a accouché de 3 enfants aux États-Unis. La première fois, ils lui ont dit « Est-ce que vous voulez prendre du paracétamol ?» Elle a dit oui. Elle a payé 20 dollars la gélule. Alors, bon, l'assurance a pris en charge. Mais je veux dire, 20 dollars la gélule de Doliprane, c'est quand même… Enfin, c'est… Je veux dire, ça fait flipper. Et donc, si c'est que 20 dollars la gélule, qu'est-ce que ça va être ? Je sais pas, de complications ou autre. C'est horrible.
Mais après, en fait, la façon dont ça fonctionne aux États-Unis, c'est le médecin va biller ton assurance ce montant-là. Mmh. Par exemple, moi, j'avais vu mon accouchement, juste le fait d'accoucher, je crois, avait coûté, c'est-à-dire que le médecin avait envoyé à mon assurance 25 000 dollars de frais. Après, je sais pas combien l'assurance est revenue vers moi en disant, attendez les gars, mollo. Moi, je vais vous payer 5 000. Et après, le médecin va dire, OK, 5 000, ça me paraît faire. Et en fait, et à partir de ce moment-là, non, mais c'est comme ça que ça marche. Okay, et en gros, si le médecin te dit, non, pour moi, c'est 5 000 50, l'assurance va dire, OK, moi, je prends 5 000, mais le patient derrière va devoir payer les 50 de différence. Et c'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. C'est que le médecin, c'est dans son intérêt, comme les lunettes en France, c'est dans leur intérêt de facturer aux mutuelles ou à ce genre de choses un maximum pour essayer d'en récupérer un maximum. Mais toi, au final, tu ne payes pas le montant qui est dû et tout est négociable. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas d'assurance et que ça te coûtait 25 000, tu pourrais dire, attendez, les gars, 25 000 dollars, je les sors d'où ? Non, moi, je vais vous payer 5 000. Et soit ils te disent OK ou des choses comme ça. C'est toujours négociable, en fait.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, quand... Quand on ne sait pas tout, je trouve que c'est flippant.
Oui, et puis il faut comprendre aussi tout le vocabulaire du deductible, out of pocket, in-network, out-network, ce genre de choses qui te paraissent vraiment incompréhensibles. En fait, là où je veux un peu déculpabiliser les choses, c'est qu'en général, vous avez une assurance santé à travers votre employeur. Elle peut être plus ou moins intéressantes. Mais dans mon cas, par exemple, ma grossesse, même si le médecin a facturé la péridurale et l'accouchement et le fait que Pierre, il avait quelques problèmes cardiaques pendant quelques heures, donc tout ça a été cumulé, je crois que ça a coûté en tout et pour tout 50 000. Enfin, je veux dire, le médecin a facturé à l'assurance 50 000, je ne sais pas combien le médecin a récupéré derrière, mais en tout cas, moi, de ma poche, j'ai sorti 1 000 dollars. Les farfouilles qui se passent entre les médecins et l'assurance, c'est leur problème, mais toi, en tant que petit individu, ayant une assurance, tu ne payes pas autant. En fait, ils jouent vraiment sur le fait que tu ne comprends pas le vocabulaire et que tu ne comprends pas comment ça marche, mais il ne faut pas hésiter à les appeler. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que tu perds ton temps à les appeler, mais quand tu les as au téléphone, tu comprends que ton tire-lait va être gratuit, tu comprends que tu dois payer que ça, tu comprends que tu peux faire ce genre de test, il va être gratuit. Enfin, vraiment, il ne faut pas hésiter à les appeler. C'est ça le plus gros problème.
Okay.
Non, c'était mon petit point santé.
Oui, non, mais c'est super. Mais je trouve que c'est super intéressant.
Non, mais c'est vraiment pour. C'est vrai que ça, c'est flippant et quand t'arrives, tu ne comprends pas un peu comment ça fonctionne. Mais faut vraiment voir ça comme une mutuelle. Comment tu payes d'avance et après ils te remboursent, ce genre de choses, quoi. Enfin bref. Alors, quel bilan tu tires aujourd'hui de ton expatriation à Los Angeles?
Ça a été en effet une des plus grosses épreuves que j'ai jamais eu à passer. Quand on est venu ici, mes premiers mois, je disais, je suis là à cause de mon mari. C'était vraiment plutôt très négatif. Et puis, au fil des mois, c'est grâce à mon mari que on est là. Même si ça a été très difficile, je le referai. Parce que ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait rencontrer des personnes merveilleuses. Et puis même si on est loin de sa famille et de ses amis, il y a plein de choses à découvrir. Et puis ça m'a fait, je pense, énormément grandir. Ma meilleure amie fait que de me dire, elle est en France. C'est pas, je te reconnais pas, mais tu t'es affirmée, t'as grandi et puis t'as appris tellement de choses. Et du coup, je suis quand même fière de... Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je suis quand même fière de là où je suis arrivée, vu dans quel état j'étais il y a un an et quelques.
C'est pas prétentieux. Enfin, c'est un challenge, mais de rien de s'expatrier, et d'autant plus quand tu as des enfants. Donc, faut encaisser le coup et après, il faut se donner un petit coup de pied au derrière et de se dire, attends, je vis quand même un truc de malade. Il faut que je me donne maintenant les moyens de vivre la chose. Et puis, c'est après, je pense qu'il faut quand même se donner 2 ans d'expatriation pour se dire ok, non, c'est vraiment pas un truc pour moi, il faut rentrer. C'est une chance quand même, mine de rien, l'expatriation. Mais est-ce que t'en parlais souvent avec ton mari du fait que tu te sentais pas très bien ou t'osais pas nécessairement lui dire que ça allait pas?
Ah si, il a... Bon, déjà de une, il le voyait très très bien. Et de deux, on parlait vraiment beaucoup. Et puis il faisait tout ce qu'il avait en son pouvoir pour me faire avancer et pour faire en sorte que j'aille mieux. Et à la fois il était tiraillé parce qu'il avait beaucoup de travail, etc. Il m'a accompagnée chez le médecin la première fois que j'y suis allée. Enfin, je veux dire, il a essayé d'être là au maximum qu'il pouvait pour m'aider à aller mieux. S'il n'avait pas été comme ça, je pense que je n'aurais pas réussi. Enfin, en bilan aussi, mon fils, je pense qu'on lui donne une chance de folie quand même d'être là, d'apprendre une deuxième langue et tout ce qu'il peut découvrir en étant ici. Et puis, la seule chose, c'est être loin de sa famille aussi quand il y a des naissances ou futures naissances, des coups un peu plus durs, genre maladie ou autre, ça c'est dur à gérer, mais je pense que c'est beaucoup plus positif que négatif, l'expatriation.
Ou ça vient avec les deux en fait, il faut simplement l'accepter. Et vos parents, j'imagine qu'ils sont aussi assez mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi venir vous voir, c'est quand même 12 heures d'avion, mais...
Mes beaux-parents, il y a vraiment, c'est un peu des globe-trotteurs, donc il n'y a aucun problème. Mes parents bougent moins, sont un peu plus âgés que les parents de mon mari. Mes deux parents sont venus ensemble l'année dernière, c'était déjà super. Ma mère avait prévu de revenir peut-être avec une copine. J'espère juste que mon frère aussi fera le déplacement. J'espère qu'il m'écoutera.
Je laisserai le message. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le court terme de rester à Los Angeles, de, bah déjà que la start-up de ton mari fonctionne à plein feu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en dehors de ça?
Bah, peut-être un petit bébé. et puis que ça continue comme c'est actuellement. Je trouve que on arrive à trouver un équilibre, que voilà, que mon fils puisse s'épanouir encore plus. Hein, là, il est bien, et puis que, ouais, qu'on continue comme ça. Je pense que il y a pas beaucoup de choses pour encore améliorer les choses. Peut-être que j'améliore encore mon anglais.
Bah écoute, je te remercie énormément pour ton témoignage.
Bah, merci à toi surtout d'être venue me proposer. J'étais super fière, j'étais contente.
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !